Une chinoise par Aurélien Scholl. Ce n'était pas une chinoise, mais une annamite, une pauvre annamite de 17 ans, bien jaune et bien mince, échouée dans cette abominable maison après de navrantes aventures. À 13 ans, servante dans une buvette à matelots de la rue Katina à Saïgon, elle avait consenti à suivre en Europe un mécanicien des messageries maritimes qui, las d'elle en rentrant à Marseille, l'expédiait bientôt sur Toulon, où elle se plaçait dans une gargote de la rue du Canon. Là, elle faisait rencontre d'un bel lâtre de la Mestrance qui, après l'avoir gardé 1 an entre 2 campagnes, l'abandonnait avec un bébé de 2 mois. Quelques semaines après le départ du père, l'enfant mourut. Quand la pauvre petite Chinchier se retrouva seule dans sa chambre du faubourg derrière le port marchand, un gros chagrin lui serra le cœur avec une vaine nostalgie des pays perdus. Retourner en Cochinchine, elle le tenta, mais les cuisiniers des transports qui consentaient à l'embarquer pour laver la vaisselle du bord pendant une traversée n'obtinrent jamais l'agrément de leurs officiers. Aucun passager ne daigna l'emmener comme domestique, tant les renseignements fournis sur elle la compromettaient. Une vagabonde, une coureuse, une fille à matelots. Son ignorance ne lui permettait point d'autre gagne-pain que le service d'auberge. Encore, ses premiers patrons lui reprochaient-ils son vague charabia fait de patois chinois et de quelques boiteuses locutions françaises. Enfin, une voisine lui donna l'idée de chercher aventure dans les cafés bien fréquentés et les beuglants du boulevard de Strasbourg. Elle y alla, traînant sa vieille robe annamite en coton jonquille brodé de fleurs de soie, et prit place bientôt parmi les filles cotées. De là, une vie meilleure, 15 à 20 louis par mois et un logement gentil dans le nouveau quartier de la gare. Cela dura 2 ans, jusqu'à certains scandales publics causés par des officiers de marine après un souper trop copieux dans un restaurant de nuit. Le préfet maritime se plaignit à la police, qui donna sévèrement la chasse aux filles. Chinchier fut arrêté en pleine rue un soir, au sortir du casino, et comme elle ne justifiait d'aucun moyen d'existence, comme personne ne se dérangea pour la réclamer, on l'inscrivit sur les registres de la prostitution tolérée. Malgré les explications que l'on s'efforça de lui donner, elle ne comprit absolument rien à cette formalité, sinon que le premier passant venu avait le droit de la conduire ou de la faire conduire en prison. Bientôt, des contraventions l'accablirent, au point qu'un insurmontable effroi des policiers la tint enfermée chez elle. Sa logeuse alors l'exploita, l'endetta tant et si bien qu'elle renonça d'elle-même à ce que les règlements lui laissaient de liberté. Un soir, elle s'évada pendant une absence de sa gardienne, courut au chemin de fer, se jeta dans le premier train en partance pour Draguignan et, rendue au chef-lieu, alla s'enrôler dans une maison de tolérance qui lui avait été indiquée. Son arrivée détermina dans la ville une sensation profonde. En moins d'une semaine, elle y était devenue populaire. On ne parlait que d'elle aux tables d'hôtes des commis voyageurs et dans les cafés fréquentés par les sous-officiers. D'autant mieux que la tenancière n'avait rien négligé pour la mise en scène de sa nouvelle pensionnaire. Chinchié reçut une garde-robe neuve achetée tout exprès à Marseille chez le représentant d'un grand comptoir oriental, des robes de soie brochées pareilles à celles que portent là-bas les femmes des mandarins, la femme du Fu de Mito et du Quanhan de Wenlong, des colliers de coraux blancs et roses, des bracelets de perles des jupes de crêpe pourpre transparentes comme des tulles. Les parures se compliquaient d'accessoires hétéroclites à la mode du Japon ou du Cambodge, de bibelots coréens et d'éventails expédiés par les bazars de Calcutta ou de Singapour. Mais les dansés noirs n'y regardaient point de si près et tenaient la nouvelle venue pour une chinoise parfaitement accommodée. Quand son trousseau fut achevé, on lui permit de reprendre l'habitude du bétel afin de rendre à ses dents leur teinture primitive. Elle laissa croître ses ongles et s'appliqua à ne plus prononcer un seul mot de langue française devant la clientèle. Enfin, madame s'avisa de lui meubler une chambre spéciale en harmonie avec son origine asiatique. Ce fut une petite pièce toute tendue de nattes en jonc fin avec un lit bas en bois de santal et des rideaux bordés de chimères extravagantes ou d'inscriptions mystérieuses et au plafond, sur une soie jaune impériale, un dragon de pourpre poursuivait les soleils d'or et les étoiles diamantées à travers des arroyos verdoyants cernés de lotus et d'azalées. Aux murailles, le long des nattes vernissées, se succédaient de bizarres estampes au fond de cinabre ou d'azur, avec de terribles épopées et des batailles féroces se ruant en d'infinis paysages. Sur le parquet, des coussins et des meubles en bambou. Le tout arrivait à se gynécer, scandaleux et raté, par un tamis de stores roses. Cette chambre de Chinchié est encore célèbre aujourd'hui dans les souvenirs de la luxure drassénoise. Il n'y eut plus désormais à Draguignan de belles parures fines entre célibataires qu'il ne se termina par une visite à la chinoise. La ville tenait à la petite Anamite. Elle en était fière. Lorsqu'un étranger survenait, on lui citait Chinchié et sa chambre parmi les curiosités de l'endroit, avant la maison du bourreau, la pierre de la fée, l'armure du connétable, Anne de Montmorency et la vieille chapelle des Observantins. On lui disait « Oh, vous ne trouvez rien de pareil à ni à Brignoles, ni à Fréjus, pas même à Nice, ni à Marseille. » Du chef-lieu, la célébrité de Chinchié rayonna bientôt sur le département. Les gens du Var, appelés à Draguignan par leurs affaires ou pour déposer comme témoins devant la cour d'assises ou pour visiter le préfet, rentraient chez eux avec des récits sardanapalesques. Vous pensez bien qu'ils exagéraient un peu, étant du midi, mais ces exagérations même augmentaient la popularité de la chinoise. Aussi, la maison où s'était échouée la pauvrette réalisait des bénéfices inaccoutumés. Le patron parlait d'acheter une villa sur le littoral entre Saint-Tropez et le Lavandou. La patronne assistait en robe de satin au concert de la fanfare municipale sur le cours. Chinchié régnait en souveraine sur le logis et mettait de l'argent de côté. Or, par un beau dimanche de mai, le département du Var ayant été appelé à élire un membre de la Chambre haute, 600 délégués sénatoriaux débarquèrent à Draguignan, armés de leurs lettres de convocation et légitimement fiers de la prérogative que leur décernait la Constitution. C'était pour la plupart des représentants de communes rurales, des paysans, des laboureurs, des retraités de la marine, des patrons de pêche, des montagnards de Salerne, de Bariol, de Taverne, de Camps, de Calas, des forestiers du plan de la Tour, des colobrières ou de l'Estérel, des pêcheurs vivant sur la côte entre le Cap d'Alon et la pointe de l'Esquine, tous ces gens pour qui ce déplacement était une grosse et grave affaire. Ils arrivèrent de la première heure, longtemps avant que les bureaux de vote fussent ouverts au palais de justice, et se répandirent dans les hôtels et les cafés environnant la préfecture. Quand ils se furent enquis des heures assignées au tour de scrutin et qu'ils eurent assuré leurs deux repas de la journée, ils déambulèrent par petits groupes, réunis en délégation de canton, l'air sérieux, ainsi qu'il convient à des citoyens détenteurs de la volonté nationale. Leur oisiveté dépaysée les livrait sans défense aux manœuvres des candidats et de leurs agents. Les uns s'engouffrèrent de vastes salles de tables d'hôtes où des politiciens venus de loin les gorgeaient de victoires, de vin du pays et de belles promesses. D'autres entrèrent au théâtre pour entendre les organisateurs d'une réunion préparatoire. D'autres enfin, pauvres hères, quantité négligeable, furent abandonnés à eux-mêmes, à la morne badauderie des places désertes et des ruelles obscures. Jusqu'à 10 heures, ils s'entretinrent en confiance des intérêts du pays, sans négliger les intérêts particuliers du département. Il fut question de la rupture du traité de commerce avec l'Italie, de l'achèvement des voies ferrées sur le littoral, de la démolition des remparts de Toulon, du droit de rassemblement et de l'impôt sur le blé. Au moment voulu, tous se retrouvèrent devant les urnes et votèrent avec empressement. Par malheur, ils s'étaient insuffisamment concertés, à telle enseigne qu'aucun candidat ne se trouva nanti de la majorité nécessaire et qu'un deuxième tour de scrutin fut proclamé nécessaire. Ce résultat négatif les consterna. Au déjeuner, ils s'en plaignirent. L'obligation de voter à nouveau leur enlevait le plus clair loisir de leur journée. Ceux-ci comptaient profiter de l'occasion pour visiter le musée et la collection de médailles. Ceux-là se promettaient une promenade au dolmen. Ceux-là encore s'étaient chargés d'emplaintes encombrantes pour les gens de leur village. À la grande table d'hôte de l'hôtel Bertin, un gros délégué, un marchand de chevaux de course, laissa échapper à mi-voix, sans compter que me promettait d'aller faire une visite à leur fameuse chinoise. Cet aveu fut suivi d'un solennel silence. Les délégués rougirent, baissèrent leurs regards vers la nappe avec de petites mines embarrassées. Puis chacun d'eux confia à son voisin qu'il avait eu la même idée. La chinoise, ils y pensaient tous. Depuis la convocation du collège électoral, ils attendaient fiévreux le tour de leur réunion à Draguignan, se promettant formellement de profiter de l'occasion pour contempler à loisir la célèbre fille du céleste empire. Et quelle occasion, l'État payant le voyage et les frais de séjour. Cependant, ils expliquèrent leur projet par des mobiles purement ethnographiques. Une chinoise, ça devait être curieux. Il fallait voir ça, rien que voir, pour le plaisir de la chose, pour pouvoir dire qu'on l'avait vue. Et lorsqu'ils furent bien d'accord sur l'austérité de leurs intentions, ils parlèrent franchement de Tchitchié et seulement d'elle. Toute la légende de la chinoise ressuscita dans leurs propos. Les délégués ignoraient son histoire, et sur la foi de voyageurs de commerce en humeur de gouaille, ils se complaisaient à lui attribuer une auguste origine. La petite servante de Saïgon leur apparaissait comme une vraie princesse de Pékin ou de Canton, sortie de son extraordinaire patrie après des aventures d'un romanesque échevelé. Un maire de la montagne ayant entendu dire que son père avait été ministre, ambassadeur, général en chef ou quelque chose d'approchant. Un ancien chef de timonerie qui avait navigué dans les mers de Chine surexcita violemment les imaginations en parlant des bateaux-fleurs de Canton qui n'avait d'ailleurs point visité, et des contes absurdes que les Européens ont répandus au sujet de ces fastueux établissements. Selon lui, Chinchié sortait tout simplement d'un de ses bateaux, mais elle avait dû y apprendre des choses. À ce dernier mot, il y eut comme une rumeur autour de la table. Les délégués se regardèrent, très allumés, la pourpre du rouge des yeux au front, la sueur aux joues. Alors l'ancien timonier leur raconta des histoires excessives, ses bonnes fortunes dans l'Extrême-Orient, avec des femmes de toutes les couleurs, les mille et une nuits d'un donjouan d'entrepont, lâché éperdument dans la blague du midi. Une congaille à la peau dorée, comme un vieux bronze qui s'était éprise de lui à Yokohama et voulait le faire nommer général des gardes du Taïkun. Une princesse indienne, rencontrée chez le Raja de Visapur et qu'il lui avait fallu épouser, sous peine de mort. Une japonaise qui voulait le suivre en Europe. Une singalaise se suicidant de désespoir le matin de son départ. Et ses façons si tendres avec les hommes, une si merveilleuse science de la passion. Oh, le génie des voluptés, quoi! Quand il fallut se lever de table pour le deuxième tour de scrutin, la visite à Chinchié était chose convenue. On irait vers 5 heures après la proclamation des résultats généraux, le temps de toucher l'indemnité de déplacement et en route. Seulement, on éviterait de s'y rendre encore. Les délégués se partagèrent en petits groupes de 5 à 6, et, comme à la table d'hôte de l'hôtel Bertin, on tenait une trentaine, bon, cela remplirait le temps jusqu'à l'heure du dîner. Sur la place, devant le palais de justice, les 600 délégués évoluaient en proie à la même pensée fixe, la chinoise. Les candidats ne retrouvèrent plus que des électeurs distraits, dont la visible préoccupation les inquiéta fort. On vota tant bien que mal, sans élan, par hâte d'en finir. Et dès que le président du tribunal eut prononcé la clôture du scrutin, les plus pressés, les plus ardents, dédaignèrent l'argent de l'État et montèrent silencieusement vers la grande maison du haut de la ville, reconnaissable à ses volets clos et à son numéro démesuré. Ah, ces messieurs viennent pour la chinoise ? Demanda la bonne au premier venu. Ah, il faudra patienter un moment. Ces messieurs peuvent attendre au salon. Un salon bondé de filles fardées en costume professionnel, soit aussi peu vêtues que possible. Mais les visiteurs les regardèrent à peine, se bornant à de vulgaires politesses pour ce troupeau. Ils commandèrent de l'absinthe afin de ne pas perdre tout à fait leur temps, jusqu'au moment où la chinoise pourrait les recevoir. Enfin, la bonne vint annoncer que Chinchié attendait le premier de ces messieurs. À chaque minute, l'assistance augmentait de 5 ou 6 arrivants. Le salon fut bientôt trop étroit, et il fallut improviser des salles d'attente dans le réfectoire et dans les chambres de ces demoiselles. Les sièges manquèrent. On s'installa comme on put, les uns en lapin sur des bras de fauteuil, d'autres debout, appuyés au mur, et d'autres accroupis sur le parquet ou piétinant sur place. Quand les verres se firent rares, on en allait racoler dans les cafés du voisinage. En une demi-heure, la maison fut remplie jusqu'au comble de délégués sénatoriaux. Il y en avait dans le vestibule et dans la cuisine. Une 20aine fumaient leurs pipes assis sur les marches de l'escalier en causant de leurs petites affaires. Lorsque les portes s'ouvraient pour livrer passage à des retardataires, des clameurs s'élevaient dans l'air, alourdies par le piment des alcools et la fumée de tabac. « Oh tiens, c'est un tel ! Voilà ceux de Salerne ! Voici ceux de Beausset ! Oh ben voilà ceux de Luc ! Voici ceux de Savary ! Bonsoir, les gars de Soufaron ! Place aux délégués de Soliespon ! » À 7 heures du soir, le département tout entier se trouvait représenté. En attendant leur tour de monter chez la chinoise, ces braves gens causaient de leurs petites affaires, des dernières vendanges qui n'avaient pas été bonnes à cause de la grêle, des oliviers qui avaient bien produit et des primeurs qui donnaient ferme. Un cultivateur de Soliès Toucas se vantait d'avoir expédié à Paris plus de 2000 boîtes de cerises et un pêcheur de bandoles proclamait qu'il n'avait jamais vu d'année pareille pour le Merlan. Ils s'interpellaient pour échanger les nouvelles de leur famille et de leurs amis. Au premier étage, le tenancier gardait la porte de la chambre chinoise et distribuait des numéros d'ordre. En entendant sonner la demie de 7 heures à la cathédrale, il déclara que c'était l'instant du dîner de ces demoiselles et qu'il fallait vider la maison pour ne revenir qu'à partir de 9 heures. Les délégués se dispersèrent vers les tableaux d'hôtes et mangèrent au galop. Les privilégiés, ceux qui devaient à leur empressement d'avoir déjà visité Chinchié, furent les héros de la soirée. En réalité, ils revenaient profondément déçus de leur furtive excursion à travers le paradis des voluptés orientales, en proie aux omnes animal tristé du poète romain. Mais ils se gardaient bien d'en convenir. Au lieu de narrer honnêtement leurs déconvenues, les caresses banales de l'anamite, l'accueil écœuré de cette prostituée en tout semblable aux autres, ils effectuaient en parlant d'elle, ils désirent de se souvenir avec délice, de se rappeler une sensation savoureuse, et laissait entendre à demi-mot calculé que la réalité avait dépassé leur attente. Aussi le dîner fut-il vite avalé. Avant 8h30, les délégués reprenaient le chemin de la maison honteuse et, en espérant l'heure marquée pour leur accès du soir, ils fumaient dans la rue en marchant silencieusement, le cerveau hanté comme par des rêveries de fumeurs d'opium. À minuit, Chinchié demanda grâce. Étendue sur les draps de son lit de santal, elle se prétendait rompue, invoquait ses jambes éreintées, ses reins fourbus, son pauvre corps exténué de brutalités et caresses. Le patron la raisonna, fit appel à son courage, la menaça de la police. Ce serait impardonnable de s'arrêter en pleine veine au milieu de la nuit, alors que la maison regorgeait encore de messieurs qui attendaient leur tour en tirant la langue. On avait déjà encaissé plus de 1200 francs, sans compter les consommations et la limonade qui marchaient rondement depuis le dîner. Un succès comme on n'en avait jamais vu nulle part et dont on ne pouvait manquer de parler longtemps. « Voyons, voyons, tu ne vas pas reculer devant la besogne, un jour comme aujourd'hui. » En effet, une rumeur grossissait dans la maison, montait à travers l'escalier avec des bruits de verre choqués dans les toasts et de gros éclats de rire. Les ruraux s'étaient installés, bien déterminés à y passer tous, à tour de rôle jusqu'au dernier, à ne point rentrer bredouille. Pour passer le temps, il vidait bouteille sur bouteille et organisait des parties de manie ou de piquet à quatre. Quelques-uns, alourdis par une chaude journée, s'étaient allongés sur le parquet et somnolant dans les coins en rêvant tout haut de voyages en Chine et de bateaux-fleurs. Le tenancier décida de chinchiller par la promesse d'une robe neuve en lambins de Madagascar et d'une semaine de repos dans un joli cabanon de la campagne entre Draguignan et Trans. Premièrement, il lui fit avaler une demi-bouteille de vin de champagne pour lui redonner des forces. « Voyons, lequel de ces messieurs ?» À 3 heures, elle redemanda à boire, vida 5 ou 6 verres d'un vin glacé fortement additionné d'eau-de-vie. Une fièvre ardente l'agitait et couvrait sa maigreur d'une aigre transpiration. Oh, tant pis, on ferait d'elle ce qu'on voudrait, mais elle ne se sentait plus la force de se mouvoir. À 4 heures, au bras d'un adjoint de la côte, elle se prit subitement à chanter une chanson de son pays, cela sans un mouvement, presque inerte, inconsciente de l'assaut qu'elle subissait. C'était un couplet d'une chanson populaire dans la Nam, Les 5 vieilles. À la 3e veille, les amants rient. De ses doigts effilés, elle voudrait bien se dépouiller de sa tunique. Brusquement, elle détache sa ceinture en soie parfumée. Son corps est blanc comme la neige. Elle te le donne, mauvais sujet. Tu ne valus jamais rien de bon depuis que tu es au monde. Pourtant, la jeune petite femme se laisse prendre tout entière par toi. Lui répond, « Je ne sais pas quand nous pourrons nous revoir, mais je garderai la reconnaissance de ces 12 instants. Lequel de ces messieurs ? » Voici maintenant que 3 visiteurs se gourmettent au bas de l'escalier, chacun prétendant monter le premier. Le patron descendit pour s'interposer et tomba dans une affreuse bagarre. Des délégués échauffés qui se prenaient aux cheveux dans le salon à propos de l'élection de la veille. Les guéridons bousculés renversaient les bouteilles. Les filles se sauvaient en criant « Voyons, messieurs !» Là-haut, devant la porte de la chinoise, éclataient des jurons furieux. Presque aussitôt, la porte céda sous une poussée et la bandivre se rua dans la chambre orientale. Chinchillé demeura immobile, sans comprendre, prise de délire et chantant toujours. Les pochards s'arrêtent devant elle, tout bêtes, un peu impressionnés, en présence de cette créature singulière, quasi morte d'une ignoble lassitude, et intimidée aussi par ce lieu peuplé de chimères. Ils ne reprirent langue qu'en présence du patron, qu'il renjoignit de déguerpir. Les filles épouvantées appelèrent la police. Et tandis que gendarmes et agents dispersaient à coups de poing les ruraux titubants, là-haut, dans son lit de santal, Chinchillé se mourait, sans comprendre, en roucoulant des phrases de romance qui évoquaient à son délire le beau pays des marais bleus, des cigognes d'argent, des lotus pâles et des dragons farouches penchés sur son agonie.